Chapitre 3 à 12 Les réveils. Chapitre 3 Versets 5 à 11 Othniel. Nous l'avons vu, il est très important de comprendre que, l'Église ayant été infidèle à l'appel de Dieu, la possibilité d'une restauration d'ensemble n'existe pas pour elle ici-bas. Les réveils mêmes que Dieu produit faussent parfois, à cet égard, les pensées des chrétiens, surtout quand ils appartiennent à l'une de ces restaurations partielles créées par l'Esprit de Dieu. Des regards bornés, un cœur souvent étroit, habitué à n'embrasser et à n'aimer de l'Église que ce qui nous concerne immédiatement, un esprit sectaire qui nous fait appeler Église les misérables systèmes que les hommes ont substitués à l'édifice de Dieu, sont autant de raisons qui nous empêchent de nous rendre compte de l'état réel de l'Assemblée dans ce monde. Or, pour tout chrétien habitué à dépendre de la parole de Dieu, c'est un fait indiscutable que nos jours sont des jours mauvais, dans lesquels le mystère d'iniquité agit déjà, car il y a déjà plusieurs antéchrists, et l'apostasie finale se prépare. Mais un autre fait tout aussi absolu, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne se laissera jamais sans témoignage. Il se sert même du mal, comme nous l'avons vu au chapitre 2, pour apporter aux siens des bénédictions nouvelles. N'est-il pas toujours le Dieu qui employa Satan comme instrument pour amener Job dans la lumière de sa présence? De même, dans ce livre des juges, Dieu emploie l'oppression méritée de l'ennemi pour produire des réveils en Israël. Un mot les introduit tous, ils crièrent à l'Éternel. La chrétienté de nos jours discute sur les moyens à employer pour produire des réveils. Il n'en existe qu'un seul, le sentiment de la misère du monde, du pécheur ou de l'Église qui porte l'âme travaillée à s'adresser à Dieu. Et ils crièrent à l'Éternel. Alors l'Éternel leur envoie des libérateurs. Du chapitre 3e au 16e, le livre des juges va nous présenter ces réveils et leurs divers caractères. Commençons par une remarque générale. En des temps d'abaissement moral, Dieu agit par des instruments qui tous ont quelque chose d'incomplet et portent le cachet de la faiblesse. Othniel descend d'un cadet de famille. Il est fils de Kénaz, frère puîné de Caleb. Éhud est faible par son infirmité. Shangar par l'instrument qu'il emploie. Déborah par son sexe. Barak par son caractère naturel. Gédéon par ses relations. Jephté par sa naissance. D'autres juges cités en passant sont riches, influents ou prospères. Chapitre 10, verset 1 à 4. Chapitre 12, verset 8 à 15. Ceux-là, Dieu les emploie sans doute, mais moins en délivrance que pour maintenir les résultats obtenus. Nous ne sommes plus au temps de Josué ni des apôtres, au temps d'une force développée dans l'homme qui empêchait l'infirmité de la chair de se produire, et cependant l'infirmité même des témoins actuels, marque de la période que nous traversons, glorifie encore la puissance de celui qui les emploie. Nous avons déjà parlé d'Othniel. Le chapitre 1er contenait l'histoire de sa vie privée et domestique. C'était ainsi que Dieu l'avait formé pour devenir le premier juge d'Israël. Après avoir combattu en vue d'acquérir une épouse, il était entré en possession d'un héritage individuel et des sources qui le fructifient. Ici, Dieu l'emploie à combattre pour les autres. Il en est toujours ainsi. Le chrétien, pour devenir un instrument public, doit avoir fait des progrès individuels dans la connaissance du Seigneur et dans la puissance de ses privilèges. Au peu d'ampleur et d'étendue de notre service, il n'y a généralement pas d'autre raison. Nos cœurs ne sont pas assez occupés des choses célestes. Les richesses morales qu'Othniel a acquises en son particulier se manifestent bientôt dans sa marche. Ce court verset, le verset 10, mentionne de lui six choses. Premièrement, l'Esprit de l'Éternel, la puissance de Dieu pour délivrer Israël, fut sur lui. Deuxièmement, il jugea Israël. le gouvernement lui fut confié. Troisièmement, il sortit pour la guerre. Voilà le combat. Quatrièmement, l'Éternel livra en sa main Cushan Rishathaïm, roi d'Aram, c'est la victoire. Cinquièmement, sa main fut forte contre Cushan Rishathaïm, l'ennemi est définitivement subjugué. Sixièmement, le pays fut en repos 40 ans. Israël jouit en paix des fruits de la victoire d'Othniel. Le but de Dieu est atteint. Cet homme, qui n'était que de la lignée indirecte du noble Caleb, fut un instrument complet, préparé d'avance pour ce service et qui, mis à l'essai, se montra d'un métal éprouvé dans la main du divin ouvrier. Demandons à Dieu des Othniel pour le temps où nous vivons, mais plutôt soyons nous-mêmes des Othniel, par une consécration véritable au Seigneur dans notre vie privée, par un désir croissant de nous approprier les choses célestes, par la réalisation de ces choses, et nous serons des instruments bien utiles au Maître et préparés pour toute bonne œuvre. Versets 12 à 30, Éhude. Othniel meurt. Israël retourne au mal et oublie l'Éternel. Le Dieu qui avait fortifié Othniel contre l'ennemi, fortifie maintenant Eglon, roi de Moab, en jugement contre Israël. Eglon et ses alliés s'emparent de la ville des palmiers. Voir chapitre 1, verset 16, Deutéronome 34, verset 3. De Jéricho, non pas sous les traits de la ville maudite, mais dans son caractère de bénédiction pour Israël. De son côté, Israël déchu se sert de l'instrument libérateur que Dieu allait employer pour envoyer par lui un présent à Eglon, scellant ainsi son asservissement au monde qu'il cherche à se rendre propice. Combien de dons qui, de nos jours, sont des instruments dociles pour garder les enfants de Dieu sous la domination du monde. Mais Éhude est fidèle. Il se fait faire une épée à deux tranchants. C'est son premier acte et sa seule ressource. Il en est de même du chrétien en un temps de ruine. Son épée à deux tranchants, sa première, sa seule arme offensive, est la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Apocalypse 1, verset 16. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Apocalypse 19, verset 15. Et une épée aiguë à deux tranchants sort de sa bouche, afin qu'il en frappe les nations. Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Cette épée était longue d'une petite coudée. Oui, l'arme d'Éhude était courte, mais proportionnée à son office. C'était une épée éprouvée pour pénétrer dans les entrailles de l'ennemi de Dieu et lui donner la mort. Avant d'employer son arme, Éhude la ceint par-dessous ses vêtements sur la hanche droite. Il la porte sur lui jusqu'au moment de s'en servir et, tout en la sentant avec lui, ne la met pas en vue. On porte souvent la parole au dehors et on la cite beaucoup, sans s'en servir. Or, la parole a un but. Éhude, infirme, commence par adapter son épée à son infirmité. Il la porte du côté droit. S'il la portait comme tout le monde, elle ne lui servirait de rien. Son arme doit répondre tout d'abord à son état personnel. On ne peut s'en servir en imitant les autres, pas plus que David ne pouvait se servir de l'épée de Saül. Ce qu'il fallait à David, c'était la fronde et le caillou, instruments familiers aux bergers. Après avoir offert le présent à Eglon, Éhude s'en revient des images taillées près de Gilgal. Il avait, comme il le dit, une parole secrète pour le roi. Il ne remporte pas une victoire publique comme tant d'autres. Ici, c'est un combat secret entre le libérateur et l'ennemi, un combat solitaire, mais dont les effets publics ne tardent pas à paraître. Ce fut le cas de celui de Christ avec Satan dans le désert. Ici, tout se passe dans le silence, sans lutte apparente et sans cri. L'ennemi est trouvé mort par ses serviteurs qui le croyaient en repos. La puissance qui asservissait Israël est anéantie par une victoire sans bruit et sans gloire due à la courte épée d'un homme gaucher. C'était une parole secrète, mais c'était une parole de Dieu, pour Aiglon, verset 20. Notre arme est divine, et voilà ce qui fait toute sa force. Comme pour Gédéon, l'épée d'Éhude était l'épée de l'Éternel. Le roi est mort, mais l'arme n'est pas retirée de son ventre. Éhude parti, les serviteurs ont sous les yeux l'instrument de la victoire. Dieu prouve à leur confusion que c'était cette courte épée qui avait abattu par terre l'homme orgueilleux dont les yeux sortaient à force de graisse. Il s'agit ensuite pour Éhude de récolter les fruits de la victoire. Il sonne de la trompette dans la montagne d'Éphraïm et rassemble le peuple de Dieu. Ils enlèvent à Moab les guets du Jourdain et ne laissent passer personne. Le peuple revendique son territoire usurpé. Toute communication de l'ennemi avec lui est résolument interrompue grâce à la vigilance des fils d'Israël. L'usurpateur est chassé et détruit. Moab ne peut plus se rejoindre des deux côtés du Jourdain. Tel doit être le résultat du combat pour le temps actuel. S'il n'a pas pour effet de nous faire rompre ouvertement avec le monde, il reste stérile et ne répond pas à l'intention de Dieu. Plus la séparation est complète, plus la paix est durable. Le pays, nous est-il dit, fut en repos 80 ans. Verset 31, Shamgar. Après Éhude, il y eut Shamgar, fils d'Anat, qui remporta une victoire signalée sur les Philistins. Et lui aussi sauva Israël. L'épée d'Éhude était puissante, mais courte. Shamgar délivre au moyen d'une arme qui ne semble nullement appropriée à cet office, instrument méprisable qui ne peut servir, en apparence, qu'à aiguillonner des êtres sans intelligence. Sans prétendre découvrir ici des types ou des allégories, tendance qui offre plus d'un danger dans l'enseignement, j'aime à rapprocher l'aiguillon de Shamgar de l'épée d'Éhude. Nous avons une arme, la parole. Elle est la seule, sous des aspects divers, dont l'homme de foi se serve pour le combat. Pour le monde intelligent et incrédule, elle est comme un aiguillon à bœuf, bonne tout au plus pour les femmes et les enfants et les gens sans éducation, car elle est remplie de contes et de contradictions. Eh bien, sous cette forme qu'on méprise, Dieu l'emploie à gagner la bataille. Quand la foi s'en sert, elle trouve une arme où le monde ne voit que folie, car la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Oui, sans doute, elle est faite pour les inintelligents et s'applique à leurs besoins et à leur marche. Mais ce même aiguillon peut tuer 600 Philistins. Usons donc de la parole telle que Dieu nous la confie, mais souvenons-nous qu'elle n'a d'effet qu'entre les mains de la foi et quand l'âme y a trouvé pour elle-même la communion avec Dieu, la connaissance de Christ et avec elle, la bénédiction, la joie et la force.